Vous écoutez RTL.
RTL, il est midi et demi.
RTL Midi avec Jacques Serret.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une demi-heure d'information sur RTL. À la une, une famille montpelliéraine touchée par les attentats survenus en Catalogne. Un enfant de 6 ans fait partie des 28 blessés français. Témoignage à suivre. Barcelone, Cambrils, deux attaques mais une seule enquête. Les terroristes seraient tous issus d'un même village. Nous retrouvons l'un de nos envoyés spéciaux en Catalogne. Après l'Espagne, la Finlande. Un homme a mortellement poignardé deux personnes hier dans une petite ville du pays. Une enquête pour terrorisme est ouverte. Dans le reste de l'actualité, la fin des vacances qui approche, nous irons à Arcachon avant de faire un point complet sur vos conditions de circulation. Également dans cette édition, Deauville et ses célèbres ventes de yearling qui débutent aujourd'hui. Un invité, Géraud Payot, cet homme malade de la clérose en plaques, traverse la France en kayak de Paris à Marseille. Nous serons en ligne avec lui. Enfin, Bernard Porrette nous fera découvrir un nouvel ouvrage, aujourd'hui Captif de Kevin Brooks. La météo, Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
Alors, il fait plus frais, mais plus beau.
Oui, c'est vrai que ça picote un peu, notamment sur la moitié nord. Pour autant, on a juste un tout petit système qui va passer les régions les plus au nord cet après-midi. Ça va de la Basse-Normandie, de la Haute-Normandie, pardon, à l'Île-de-France et aux Ardennes. Ça se traduit par pas mal de passages nuageux, quelques pluies, pas très conséquentes. De l'autre côté, sur l'extrême nord, le Pas-de-Calais, là tout va bien, le soleil est déjà revenu. Ce sera le cas aussi sur la Bretagne. Et plus on va descendre vers le sud, plus on va trouver un ciel parfaitement dégagé. Tout cela avec des températures, donc un poil fraîche au nord. 19 à Brest cet après-midi, 21 sur Lille, 22 à Paris, 23 à Strasbourg. Il fera 24 degrés à Grenoble, 25 à Montauban et 31 à Marseille.
Merci Valérie, on vous retrouve juste avant 13h.
Jacques Serret,
RTL Midi.
Deux jours après les attentats terroristes qui ont eu lieu en Catalogne, de très nombreuses victimes sont toujours hospitalisées, principalement dans les établissements de Catalogne, de Barcelone, pardon. Le dernier bilan des autorités espagnoles fait état de 126 blessés de 35 nationalités différentes. Je vous rappelle, 14 personnes ont perdu la vie, 13 sur les Ramblas à Barcelone et une femme dans la petite station balnéaire de Cambrils. Parmi les victimes, 28 Français, 8 sont grièvement blessés, notamment un jeune Montpelliérain âgé seulement de 6 ans. Gauthier de Lombugard vient de recueillir le témoignage de Mohamed. Il est le cousin de cet enfant gravement touché. Une partie de sa famille se trouvait sur les Ramblas quand le terroriste a foncé sur la foule.
J'ai eu des nouvelles que ce matin par mon père. Lui, il est sur place. Hein. Il dit que le petit est dans un état critique. Mon oncle, ça va. Lui, il a quelques fractures, puis bras cassés, je pense. Après, c'est le petit qui est dans un état critique, quoi. Il est dans un coma artificiel, donc c'est qu'apparemment, la camionnette s'est arrêtée sur lui, quoi. On s'y attend pas. Quand on s'attend pas à une chose comme ça, c'est choquant. On essaie de venir en aide, on essaie d'être à côté, on essaie de se donner des nouvelles, oui, parce que c'est quand même une épreuve assez difficile. Quand une personne, elle s'en va en congé la veille même et puis elle se fait écraser, ben moi j'aimerais bien y aller là, donc je sais pas comment je vais faire, mais j'aimerais bien y aller. Donc. On est nous-mêmes des musulmans et on comprend pas en fait, le terroriste n'est qu'un assassin, il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, il n'est pas juif, il est juste assassin. Et les assassins, ils n'ont pas de religion, ils n'ont pas de cœur. Ils fauchent des gamins, des femmes, des hommes. Ils tuent tout le monde, on est à l'abri nulle part en fait. Même nous, les musulmans.
Le témoignage RTL recueilli par Gauthier Delon-Bugard. Et l'on apprend à l'instant que le groupe État islamique revendique la seconde attaque, celle qui a frappé la ville de Cambrils en Espagne. Partons maintenant sur place à Barcelone, deux jours après ce double attentat. L'enquête avance et se précise. Guillaume Chiez, les autorités ont découvert que c'est un groupe de jeunes issus d'un même village qui a commis ces attaques à la voiture Bélier en Catalogne.
Exactement, un groupe de 9 ou 10 hommes, tous originaires de Ripoll, une ville de 10 000 habitants dans les Pyrénées espagnoles. Ils sont amis, frères pour certains. Le plus jeune est âgé d'à peine 17 ans. Parmi eux, 5 ont été abattus dans la nuit de jeudi à vendredi à Cambrils, alors qu'ils venaient de commettre un nouvel attentat qui a fait 6 blessés et 1 mort. 4 sont actuellement en garde à vue et un homme serait en fuite. Pour l'heure, les enquêteurs n'ont aucune certitude sur l'identité de celui qui était au volant de la fourgonnette jeudi à Barcelone. Le terroriste a pu prendre la fuite, mais on ne sait pas encore s'il fait partie du groupe des 5 abattus à Cambrils ou s'il est parvenu à s'évanouir dans la nature. Les enquêteurs ont en revanche une certitude aujourd'hui, c'est que le bilan de ce double attentat aurait pu être bien plus lourd. La cellule terroriste avait accumulé des dizaines de bouteilles de gaz et des centaines de boulons en métal dans leur planque d'Alcanar à 200 km au sud de Barcelone. Une base arrière qui a explosé mercredi soir suite à une mauvaise manipulation. C'est cette explosion qui a précipité les plans de la cellule. L'idée originale était, selon la police espagnole, de faire exploser plusieurs fourgons simultanément au cœur de Barcelone.
Guillaume Chiez, envoyé spécial en Espagne pour RTL. Les enquêteurs parlent d'ailleurs d'un groupe qui s'apprêtait à commettre une attaque de plus grande envergure. En fait, ils auraient agi précipitamment après l'explosion de leur maison, leur quartier général, mercredi soir. Ils y préparaient, selon les premiers éléments, un important système d'explosifs. Plusieurs dizaines de bonbonnes de gaz ont d'ailleurs été retrouvées dans cette maison. Écoutez le témoignage de Pierre, c'est un document RTL. Ce vacancier se trouvait dans la maison située juste en face au moment de l'explosion.
Tout d'un coup, vous êtes plongé dans le noir, vous n'entendez plus rien. Vous prenez des coups partout, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas vous protéger. Vous avez l'impression que ça dure une éternité. Ma femme m'appelait, je n'arrivais pas à répondre, je ne pouvais pas. Les gens sont venus nous chercher, nous ont vite fait sortir parce qu'il y avait des bouteilles de gaz de partout, tout autour de nous. Parce que dans la maison qui était en face, où il y avait, faut le dire, c'était des terroristes. Ils étaient dedans, ils avaient préparé des bombes. Mon ami qui habite là-bas, il voyait passer des gens qui avaient investi cette maison et ce n'était jamais les mêmes. Et c'était que des hommes. Le va-et-vient, il l'a ressenti, mais... Il n'a pas actionné, c'est-à-dire de voir la police, d'en parler. On entend la télé en France, tout ça, quand il y a des attentats, on dit « Oh, ils habitent à côté de chez nous, ils étaient gentils, ils faisaient pas de bruit. » Oui, ils font pas de bruit. Ils savent se fondre dans la population sans faire de bruit, mais en dessous, ils avaient préparé toutes les bombes.
Le témoignage de Pierre en vacances à Alcanar, interrogé par Laura Maocci. Face à ce nouvel acte de barbarie, les réactions de la classe politique sont restées plutôt sobres. Une exception tout de même, celle de Gilbert Collard. Le député Front National du Gard a posté un message plutôt polémique sur le réseau social Twitter. Je cite « Il y a quelques mois, 100 000 Catalans manifestaient en faveur de l'immigration, l'humanitarisme, homicide. » Gilbert Collard s'en explique sur RTL.
Le problème, c'est que les terroristes sont partout et qu'ils fonctionnent sur deux mécanismes qui sont bien identifiés maintenant. Le premier, c'est les arrière-bases psychologiques qu'on laisse se développer un peu dans tous les pays, et particulièrement en France. C'est les mosquées dans lesquelles il y a des prêches intolérables qu'on laisse faire, c'est la propagande religieuse qu'on laisse s'intensifier, c'est le discours d'opposition entre les uns et les autres qu'on laisse s'installer, et puis c'est tout ce qui permet à la mouvance djihadiste de s'infiltrer et d'organiser souterrainement avec finalement le laxisme qui entoure le fonctionnement de notre société, des réseaux qui peuvent à tout moment être déclenchés sur ordre et tués. Je crois qu'on ferait bien, au lieu de penser au confort des belles âmes, de penser à la vie de nos concitoyens ou alors des habitants d'autres pays comme l'Espagne.
Gilbert Collard au micro RTL d'Olivier Bost. Nice, Berlin, Barcelone. En un an, les attentats aux véhicules Bélier se sont multipliés en Europe. Difficile de sécuriser à 100% les grands événements publics avec ce procédé terroriste. L'an dernier, la mairie de Lille avait décidé d'annuler la grande braderie. Cette année, elle aura bien lieu. Ce sera les 2 et 3 septembre prochains. Emmanuel Boin, les autorités annoncent déjà d'importants moyens pour sécuriser ce grand rendez-vous.
Périmètre réduit et cerné par des blocs de béton. Accès interdit aux véhicules pendant 3 jours. Point de contrôle avec 160 agents municipaux. La mairie de Lille a repensé sa braderie en renforçant sa sécurité. Mais malgré cet impressionnant dispositif, Stéphane ne sait pas encore s'il ira cette année.
On y va avec la prévention qu'il n'y arrive rien. C'est tout à fait normal. Ça fait peur.
Inquiétude également pour les commerçants qui craignent une baisse de fréquentation. Frédéric a une boutique de vêtements dans le Vieux-Lille.
On a peur qu'il y ait moins de gens, on a peur que la sécurité ne soit pas à la hauteur de nos attentes aussi. Comme tout le monde, toutes les questions qu'on se pose. Ça sera une découverte. On verra. Verdict dans 15 jours.
Et puis, il y a les Lillois, comme Claude, retraité de 69 ans. Menace terroriste ou pas, la braderie ne se rate pas.
Vous savez, des craintes, il y en a partout. Si on cède à la peur, c'est pas bon, quoi. Il faut absolument que la vie continue. Et la vie continue.
Le reportage d'Emmanuel Bouin à Lille pour RTL. Mais après Barcelone, jeudi, c'est peut-être une autre ville européenne qui a été touchée par le terrorisme. Hier, deux personnes ont été mortellement poignardées à Turku, dans le sud-ouest de la Finlande. Raphaël Vantard, le profil de l'agresseur interpelle. La police a ouvert une enquête pour terrorisme.
Visiblement, c'est effectivement le profil de ce suspect, un jeune Marocain de 18 ans qui pousse la police finlandaise à modifier la nature de son enquête. Le suspect s'est-il livré sur ses intentions terroristes auprès des enquêteurs? Rien ne filtre là-dessus de la part des autorités finlandaises, mais en tout cas, le meurtre des deux personnes à coups de couteau et les blessures de plusieurs autres hier à Turku ne sont plus considérées comme des meurtres, mais bel et bien comme une attaque terroriste. C'est la première fois que ce pays de Scandinavie est frappé par un attentat. Pour le moment, aucun groupe ne revendique cette attaque, mais ce qui pousse aussi les enquêteurs finlandais vers la piste terroriste, ce sont les nombreuses interpellations et les perquisitions effectuées depuis hier dans l'entourage du tueur au couteau de Turku. La Finlande était d'ailleurs, avant cette attaque, sur le qui-vive. Elle sait depuis plusieurs semaines qu'elle est une cible potentielle du groupe terroriste État islamique. Près d'une centaine de ressortissants finlandais ont depuis plusieurs années rejoint les rangs de Daesh en Syrie et en Irak.
Merci Raphaël Vantard. Et en Russie, on l'a appris dans la matinée, un homme armé a été abattu par la police. C'était en Sibérie. Il avait poignardé une personne en pleine rue à Sourgout, cette ville de Sibérie. La police précise que la piste terroriste n'est pas privilégiée. RTL, il est midi 40. On marque une courte pause et dans un instant, le cœur est lourd sur la route du retour des vacances.
Vous écoutez RTL. RTL midi avec Jacques Serret.
La fin des vacances approche, beaucoup de monde sur les routes aujourd'hui et certains profitent jusqu'au bout des dernières heures, des dernières minutes au bord de la mer. Jean-Marc Terrier était ce matin à Arcachon. Eh bien, les sourires étaient un peu crispés chez les vacanciers qu'il a rencontrés.
Sylvie vient de passer une semaine dans la région. Dernière balade en front de mer pour profiter du bassin.
J'arrive au bout du bout, on repart demain soir. Un petit peu triste quand même. J'aimerais bien profiter un peu plus. Surtout c'est un long chemin en plus qu'on conduit jusqu'à Dieppe et après le ferry. C'est un long chemin à travers la France.
Le reste de l'année, elle vit à Londres et la météo arcachonnaise de cet été lui a rappelé quelques souvenirs.
Justement, je rouscotais dans la voiture. C'était un petit peu comme en Angleterre. Mais ce qu'il a fait, bon, il a quelques journées de soleil, mais c'est vrai que c'était pas vraiment très différent de l'Angleterre, je dois dire.
Paul et Élise ont décidé d'opter pour une dernière balade en vélo au Cap Ferret via la navette fluviale. Retour à la maison, prévu dans 24 heures.
On est parti de Nantes jusqu'à Bordeaux en fait.
Ah non, on en a bien profité.
Sac à dos sur l'épaule, Yves lui fait une dernière photo depuis la jetée.
Le grand air, le calme.
Vous avez le sentiment d'en avoir bien profité?
Ah mais totalement. Mais voilà, c'est plaisir quoi.
Enfin pour tous ces automobilistes, ultime obstacle à franchir, les incontournables bouchons à la sortie d'Arcachon.
Le reportage de Jean-Marc Terrier à Arcachon pour RTL. Vous êtes d'ailleurs peut-être sur la route actuellement. Sachez que Bison Futé hisse le drapeau rouge au niveau national. C'est noir dans le sud-est. Faisons un point désormais, un point avec vous, Florian Delisle. Bonjour.
Bonjour.
Les difficultés se concentrent surtout dans la vallée du Rhône.
Oui, sans surprise. Temps de parcours doublé dans les deux sens de circulation sur l'autoroute A7. Vous mettrez plus de 3 heures entre Lyon et Orange. Vous aurez aussi des difficultés autour d'Aix-en-Provence sur les autoroutes A7 et A8. Comptez 3 quarts d'heure de bouchon sur l'A54 entre Salon de Provence et Nîmes, principalement à Arles. L'autoroute A9 est difficile, surtout en direction de l'Espagne au niveau de Béziers. Un bouchon de près d'une heure. Une heure et demie de plus sur votre temps de parcours sur l'A61 entre Narbonne et Toulouse, quel que soit le sens de circulation. Ça roule mal aussi sur l'A20, notamment autour de Brive-la-Gaillarde ainsi que sur l'A89. Plusieurs zones compliquées sur l'A75 en montée vers le nord, notamment à Clermont-Ferrand. Plus à l'ouest, le secteur de Bordeaux est saturé. Principal bouchon dans le secteur d'Arcachon vers le nord sur l'A63, 1h30 perdue. Des coups de frein également sur l'autoroute A10 et surtout un accident grave avant Saint-Arnoult-en-Yvelines vers Paris. Plus d'une heure et demie de bouchons pour vous qui arrivez d'Orléans.
Radio Guidage sur RTL dès que nécessaire avec vous, Florian Delisle. Une deuxième liste de produits contaminés par les œufs au fipronil a été publiée par le ministère de l'Agriculture. En plus des gaufres, des gâteaux aux amandes de la marque Lotus vont être retirés des supermarchés français à cause d'un taux élevé de cet insecticide. Les lots concernés ont été mis en vente entre le 3 juillet et le 3 août. De la glace de Bolivie est arrivée en France. On ne parle pas là de glace qui se mange, mais de véritable glace. C'est à l'initiative du laboratoire de glaciologie de Grenoble. 3 tonnes de glace, oui, 3 tonnes ont été prélevées à 6300 mètres d'altitude sur le glacier de Lillimani en Amérique du Sud. Des carottes de glace importées. Serge Pueyo, cette opération pour le moins originale fait partie d'un vaste projet scientifique.
Après 10 000 km de voyage depuis la Bolivie, les glaciologues de Grenoble étaient comme des enfants devant un sapin de Noël en voyant arriver les carottes de glace intactes dans leur conteneur frigorifique.
Ah, elles sont en parfait état de conservation et c'est un formidable succès pour nous.
Très heureuse de voir le conteneur à moins 25 degrés ce matin en arrivant à Grenoble et de voir les carottes de glace dans le même état où on les avait laissées en Bolivie.
Jérôme Chaplaz, chercheur au CNRS, s'apprête maintenant à lire dans cette glace l'histoire climatique de notre planète.
Les carottes de glace sont un véritable livre d'histoire. L'histoire des précipitations, l'histoire des températures, l'histoire des embruns marins, des tempêtes de sable, des pollutions humaines, les traces de pollution en dioxyde de soufre, par exemple, produit par la combustion du charbon, et même l'histoire des gaz à effet de serre, l'évolution du gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est grâce aux carottes de glace qu'on a pu le reconstruire. Les carottes de glace nous permettent de comprendre l'histoire de la planète, donc de nous projeter dans le passé, qui nous permet, par exemple, avec ce forage, de remonter à 18 000 ans dans l'histoire de la planète, ce qui est tout à fait considérable.
En 2020, ces carottes de glace seront conservées en Antarctique, au cœur de la base Concordia.
Le reportage de Serge Pueyo à Grenoble. La fin du mois d'août qui approche, c'est aussi le signe d'un rendez-vous incontournable pour les amateurs de courses de chevaux. Ce week-end se déroulent les célèbres ventes de yearling, de jeunes pur sang âgés d'1 an qui n'ont jamais couru, mais dont certains sont promis un très bel avenir. Des ventes aux enchères où les acheteurs viennent du monde entier pour s'arracher à prix d'or ces jeunes chevaux. Les plus riches propriétaires viennent de Dubaï, du Qatar, du Japon et même des États-Unis. Au marché pour animer les ventes, il y aura notamment le maire de Deauville en personne, Philippe Augier, chargé de faire monter l'attention et surtout les prix.
Notre rôle, c'est de présenter chaque cheval à l'ensemble des acheteurs en en montrant les qualités physiques, les qualités des origines. Notre rôle, c'est évidemment de trouver toujours plus d'enchères et donc de valoriser le produit de façon à ce que chaque acheteur remette plus une. Surtout, ce qui compte, c'est de créer une ambiance dans la salle au milieu de tous ces acheteurs qui sont de pays totalement différents puisque les 5 continents sont présents en ce moment. Alors, il faut évidemment surveiller toutes les enchères, mais on a ici, et ça c'est une spécificité à Deauville, des relais dans la salle qui surveillent, parce que cette salle est à 180 degrés, c'est un auditorium, il peut nous échapper des choses. Donc on a des relais qui sont là pour nous aider, des spotters. Alors c'est vrai que c'est un spectacle, et puis le public peut venir voir le spectacle.
Philippe Augier, le maire de Deauville, au micro de Julien Caillard pour RTL. Il y a 2 ans, un pur sang avait été vendu 2 600 000 euros. C'est le record à battre. Mais il y a aussi des chevaux plus âgés et plus expérimentés qui courent également à Deauville aujourd'hui. C'est le quintet qui se passe dans la station balnéaire. Bernard Glass vous conseille de jouer le 6, l'As, le 3, le 5, le 11, le 12, le 2. Et le 8, la dernière minute de Bernard, c'est le 11, Moonwalk Step. La fin du mois d'août, le football et la suite de la 3e journée de Ligue 1. Hier soir, Monaco s'est imposé 1-0 sur le terrain de Metz. L'ASM a ainsi signé sa 5e victoire dans ce championnat de France. Elle n'avait jamais été réalisée. Aujourd'hui, 6 matchs au programme. À 17h, Lyon reçoit Bordeaux. Et puis à 20h, 4 rencontres. Montpellier-Strasbourg, Nice-Guingamp, Rennes-Dijon, 3 Nantes et puis Saint-Étienne, Amiens, les Verts qui réalisent pour le moment un excellent début de saison, 2 victoires en 2 matchs. Willy Mesonas, après le départ de Christophe Galtier, le nouvel entraîneur espagnol Oscar Garcia a su rapidement prendre ses marques.
Absolument idéal entrée en matière pour Oscar Garcia. Alors bien sûr, Saint-Etienne ne joue pas encore ce football ambitieux et chatoyant auquel aspire le coach espagnol, mais le projet de jeu existe, déjà palpable par séquence, et surtout le vestiaire des Verts, très renouvelé et internationalisé durant l'été, a visiblement choisi, à en croire Romain Amouma, d'y adhérer sans réserve.
C'est assez marrant parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui parlent français, mais on arrive quand même à se comprendre avec l'anglais de l'école, mais il y a une bonne ambiance, tout le monde est concerné, tout le monde a envie de jouer, puis on n'a pas envie de s'ennuyer comme on a pu le faire l'année dernière. Voilà, c'est un vrai renouveau.
Presque un vent de fraîcheur après l'ère Galtier, marquante, globalement très réussie, mais à bout de souffle dans sa dernière saison, avec des supporters Serge et Cyril ici, séduits par ce début.
Prometteur, nouvel entraîneur, modification du système de jeu, je pense qu'ils vont jouer la Coupe d'Europe.
On rêve de les voir européens, voire plus cette année.
C'est quoi plus ?
Plus, c'est de les voir les 3 premières places.
20 ans d'abonnement à Geoffroy Guichard ont toutefois appris à Dominique à s'emballer moins vite.
On rêve souvent au mois d'août, l'hiver est beaucoup plus long après, donc on verra.
Même prudence chez les dirigeants qui d'ailleurs refusent toujours de fixer le moindre objectif pour cette saison.
Willy Mesonas pour RTL. Et puis il y a aussi du cyclisme aujourd'hui. Départ du 72e Tour d'Espagne, la Vuelta, il sera donné en fin d'après-midi. Départ qui a lieu cette année à Nîmes, dans le Gard. C'est une maladie qui touche près de 100 000 personnes en France, la sclérose en plaques, une maladie mal connue du grand public face à laquelle un homme s'est lancé un challenge complètement fou. Paris-Marseille en kayak. À 47 ans, Géraud Payot est touché par cette maladie du système nerveux depuis 13 ans. Lundi dernier, cet habitant de Grenoble est parti de Paris pour un périple de 55 jours. Une traversée de la France et une aventure humaine qui s'annonce exceptionnelle. C'est l'invité de RTL Midi. Bonjour Géraud Payot.
Bonjour.
Alors pour commencer, deux questions toutes simples. Comment allez-vous et où êtes-vous actuellement ?
Écoutez, pour la première question, ça va bien. J'en suis à mon sixième jour de pagayage aujourd'hui. Et je dois dire que la condition physique est bonne. Et je suis actuellement sur le canal du Loing depuis hier vendredi.
Alors, Paris, Marseille en kayak, pourquoi vous êtes-vous décidé, pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure ?
Moi, je suis atteint de sclérose en plaques depuis maintenant 13 ans. J'avais envie depuis longtemps de parler différemment et de faire parler de la sclérose en plaques. Donc l'idée, c'est dans ce défi de 55 jours, c'est d'aller d'abord à la rencontre des malades, dans Civil en France, où à chaque fois on organise une conférence. Et le message principal que je veux passer aux malades, c'est on sait que c'est une maladie compliquée. Néanmoins, il faut avoir des rêves, il faut les réaliser, quels qu'ils soient, petits, grands. Et il faut faire de l'activité physique qui est bonne et pour le corps et pour l'esprit. C'est le premier message que je souhaite porter à travers ce défi. Le deuxième, bien sûr, c'est de faire parler de la sclérose en plaques, hein, qui est, comme vous le disiez, une maladie qui est encore assez peu connue, même si plus de 100 000 personnes sont touchées en France. Et le troisième raison de ce projet, c'est de récolter des fonds pour deux associations, une association de patients qui s'appelle Sepronalp Dauphiné, qui est basée à Grenoble et dont je m'occupe, et puis une association aussi sur la recherche, la fondation ARCEP, qui est très importante puisqu'aujourd'hui, il y a des traitements qui permettent de ralentir la maladie, mais il n'existe pas encore de traitement pour la guérir ou pour la stopper.
Justement, vous le disiez et on le disait, la sclérose en plaques est mal connue. Concrètement et simplement, comment vous pourriez caractériser cette maladie qui vous touche, vous, personnellement ?
Alors, c'est une maladie du système nerveux central, c'est-à-dire qui va venir impacter les nerfs, que ce soit au niveau du cerveau ou de la moelle épinière, et qui peut avoir plein de répercussions, que ce soit des troubles de l'équilibre, donc des troubles physiques visibles, des difficultés pour marcher, éventuellement des difficultés d'élocution. Et puis un certain nombre de troubles aussi invisibles, qu'on connaît moins, mais qui peuvent être des troubles de concentration, des troubles de mémoire, et les autres, je ne m'en souviens plus d'ailleurs.
Est-ce que cela vous pose problème ? Est-ce que cela vous pose des difficultés dans cette traversée de la France en kayak ?
Oui, ça me pose quelques challenges. Pour ce qui est de pagayer avec le haut du corps, ça se passe bien. Après, les challenges, c'est embarquement, débarquement, sortie du kayak de l'eau, qui sont un peu plus difficiles à gérer.
Et vous le disiez, vous allez à la rencontre de ces malades. Le message que vous leur adressez, c'est quoi ? C'est croyez en vos rêves ? Vous, personnellement, c'était un de vos rêves de faire cette traversée, peut-être ?
Je m'étais dit depuis longtemps, j'aimerais bien traverser la France de manière écologique, aller rencontre des malades. Et il y a un an, en faisant du kayak en Bretagne, je me suis dit, mais c'est comme ça. Et j'ai vérifié, et comme on peut, à travers les rivières, les canaux, aller jusqu'à Marseille, je me suis dit, banco, je prépare et je vais le réaliser.
L'arrivée est prévue pour quand à Marseille ?
Alors, si tout se passe bien, l'arrivée est prévue le 7 octobre à Marseille. Donc encore quelques journées de pagayage devant moi.
Comment vous est venue cette idée de traverser la France en kayak ? Vous faisiez ce sport particulièrement avant ou pas ?
Alors, j'en faisais un petit peu de temps en temps, mais de manière très, très occasionnelle. Et puis, il y a un petit peu plus d'un an, je me suis mis au kayak de manière plus sérieuse aussi par rapport à des aspects de rééducation et puis de convivialité, parce que le monde du kayak est un monde qui est très, très convivial à travers les différents clubs et les différents pratiquants. Et donc, ça m'a permis de passer des bons moments et de me dire que c'était le bon moyen de traverser la France et d'aller à la rencontre des personnes.
Et justement, quel est l'accueil dans les établissements, chez les malades que vous allez rencontrer ?
L'accueil, il est excellent. Deux choses. Déjà, les premiers retours que je peux avoir par les réseaux sociaux, où j'ai un certain nombre de retours de patients qui me soutiennent et c'est super. Et puis l'accueil, il est aussi... c'était mercredi, j'ai fait une petite de présentation et un échange surtout très, très sympa et très constructif dans une clinique à côté de Melun, la clinique des Trois Soleils, où il y avait une trentaine de personnes qui étaient présentes. C'était mon premier stop rencontre avec les malades. Et on a eu un très, très bel échange avec plein de questions et j'espère avoir donné plein de motivation aux personnes pour réaliser leurs rêves. Et moi, je dis toujours, plutôt que de ramer contre la sclérose en plaques, j'ai décidé de pagayer avec, d'avancer avec et de faire le maximum de choses et de partager tous ces aspects positifs avec les personnes que je rencontre.
Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir partagé de votre temps, en tout cas, Géraud Payot. Merci beaucoup et bonne suite pour votre aventure.
Merci beaucoup à vous et à bientôt.
Midi 55 sur RTL, on marque une courte pause et dans un instant, le conseil lecture de Bernard Poirette, un livre dans ma valise.
Vous écoutez RTL.
Bernard Poirette.
C'est l'une de vos chroniques de l'été, un livre dans ma valise. Chaque week-end, Bernard vous propose de découvrir un ouvrage qui lui a plu. Et ce samedi, Bernard Poirette, vous nous parlez de « Captif » de Kevin Brooks.
Ils sont six, une femme, une fillette, un adolescent et trois hommes. Tous kidnappés en Angleterre par le même cinglé et de la même façon, l'un après l'autre. Un bâillon de chloroforme, le trou noir, puis le réveil dans ce qui s'apparente à un bunker souterrain. Une chambre pour chacun, cuisine, salle de bain et séjour commun. La lumière s'allume à 8h et s'éteint à minuit. Un ascenseur circule chaque matin à 9h, la nourriture descend par là. Les sacs poubelles remontent par le même chemin. Il y a des caméras partout. Si on cherche à les obstruer, un gaz soporifique envahit le bunker. Les six prisonniers ne se connaissent pas et n'ont aucun point commun. Celui qui raconte, c'est Linus. Il a 16 ans, il vivait dans la rue depuis 5 mois après avoir fugué de chez son père. Que raconte-t-il ? Eh bien tout simplement la lente descente aux enfers d'un groupe humain au destin incompréhensible et inexorable. L'organisation du quotidien, de l'enfermement, la gestion du temps infini, l'incompréhension, les engueulades, les bagarres, les tentatives d'évasion aussi et les châtiments en retour. Jusqu'au message du ravisseur un matin, accroché au sac de provisions. Ils sont dans le trou depuis plus d'un mois et ce message va accélérer la fin de leur calvaire, dont bien entendu, je ne vous dis rien. Ça s'appelle « Captif », c'est un chef-d'œuvre. C'est aussi l'un des livres les plus dérangeants que j'ai lu cette année, car au bout de 20 pages, vous êtes l'un des captifs. Au bout de 50, vous tentez de vous évader. Au bout de 100, vous cognez sur le voisin. À 150, vous entrevoyez clairement la suite. Et quand vous lisez le fameux message de votre tortionnaire, vous êtes enfin fixé. Et comme chacun sait, mieux vaut souvent vivre dans l'illusion que connaître la vérité. Attention, claustrophobe, abstenez-vous. Il en va de votre santé mentale. Tous les autres, foncez. Captif de Kevin Brooks est paru dans la collection 10-18.
Merci beaucoup Bernard Poirette. À la semaine prochaine. Midi 59 sur RTL, l'heure de retrouver Valérie Quintin pour faire le point sur la météo de votre journée. Valérie, une journée très ensoleillée.
C'est vrai que c'est pas trop mal quand même pour les deux tiers sud du pays. En tout cas, il fait déjà un temps magnifique, c'est le cas depuis ce matin. Ça va durer, on a juste quelques petites averses sur les Pyrénées, essentiellement sur le relief, ça va rester là. Petits orages comme ça qui peuvent rester coincés en montagne, c'est tout. Plus on va remonter vers le nord, plus ça va être un petit peu plus mitigé, avec quand même deux très belles éclaircies en Normandie, en Bretagne, sur la région centre, en Lorraine et en Alsace aussi. On a des passages nuageux un peu plus fréquents et quelques averses qui circulent de la Haute-Normandie à la Picardie et aux Ardennes. Ça va glisser aussi sur l'Île-de-France et ça pourrait gagner l'ouest de la Lorraine dans quelques heures. C'est pas du gros mauvais temps, simplement quelques averses qui seront de toute façon toujours entrecoupées par les éclaircies. Reste les températures qui sont un poil fraîches quand même sur la moitié nord. 19 à Cherbourg aujourd'hui, 20 degrés à Metz, 21 à Reims, 22 degrés à Paris et Limoges, comptez 23 à Dijon, 24 degrés à Bordeaux, 30 à Perpignan et 31 degrés à Bastia.
Merci Valérie. RTL, il est 13h.